Désistance. Alors là, il y a du boulot, la réinsertion. Mais vous, pour un que vous sortez, vous en avez combien qui récidivent? Voilà, c'est ça le problème.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen. Deux heures pour mieux comprendre notre époque sans oublier d'en rire. Chaque après-midi, on s'empare d'un mot, d'une expression ou d'un concept et on le décortique en compagnie d'un spécialiste. Aujourd'hui, on va se pencher sur un concept dans lequel ici on place énormément d'espoir, celui de désistance. Cette idée qu'on peut sortir de la délinquance. Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef, y croit. Après le funeste épisode dit du Carlton de Lille où Quentin, sorte de Pete Doherty qui n'aurait pas créé les Libertines mais Intérieur Nuit, avait ravagé sa chambre d'hôtel allant jusqu'à briser une fenêtre, Cyril avait contraint Quentin à réfléchir à la violence de ses actes en méditant dans la position du lotus, assis à même le lino de l'espace détente qui jouxte notre open space. Il devait répéter 100 fois « Je ne suis pas un délinquant, je ne suis pas un délinquant » pendant que Cyril lui jouait « Heal the world » à la flûte à bec. Le résultat est hélas mitigé puisque 6 mois plus tard, Quentin n'a plus détruit de chambre d'hôtel. En revanche, il est toujours fiché S à l'URSSAF à qui il doit des sommes astronomiques qu'il préfère visiblement investir dans des suites Jacquemus que de rembourser. Nous avons donc ici même la preuve terrible que la délinquance, on sait quand on y entre, on ne sait pas quand on en sort. Alors, qu'est-ce que la désistance? Comment aider un enfant, un proche, à sortir de la spirale de la délinquance, grisé par le titre de notre émission « Quentin chantera-t-il ? Désiste, prouve que tu existes oh. ». Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Noël.
Mais il en serait capable, et vous le savez très bien.
Désir.
Oui, non. Voilà. Merci. Bonjour, Marwan Mohamed.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Marwan, vous êtes sociologue chargé de recherche au CNRS. Vos travaux portent essentiellement sur la jeunesse dans les quartiers populaires et justement les sorties de délinquance. On va décrypter avec vous ce terme de désistance. Le fait donc de sortir de la délinquance. Juste le temps de vous présenter mes complices au sens de collègues, puisqu'évidemment, je le dis aux agents de Bercy qui nous écoutent et qui suivent le dossier, lui, je ne suis complice en rien des agissements de cette personne. Manon Mariani, Quentin Louis, bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour tout le monde.
Quentin, je sais que vous attendez un droit de réponse, donc je le dis d'emblée, histoire que vous ne soyez pas déçus, il n'y en aura pas.
Bah ouais.
Les auditeurs n'auront que ma version de cette histoire de l'URSSAF. Vous nous direz en revanche ce que ça inspire aux gens dans la rue, cette notion de désistance.
Je tiens à dire aux éventuels agents de l'URSSAF qui écoutent l'émission que souvent c'est celui qui dit qui est. J'ai pas d'autre argument que ça.
Ça vole haut.
Que vous inspire la désistance dans la rue? Le fait de sortir de la délinquance, est-il possible en France? Comment? J'ai discuté prison et sortie de prison dans ce micro-trottoir complètement à la rue.
À vos côtés, Marwan, il y a une part d'elle qui veut croire à la désistance, qui se dit oui, il n'y a pas de fatalité sociale, tout le monde a droit à une deuxième chance et on peut casser l'engrenage de la délinquance. Et puis il y a l'autre part de la Marianoche, celle qui s'appelle Carole Buisson. Journaliste soi-disant infiltrée sur le site de rencontre Droit au cœur, pour qui chaque citoyen oubliant de composter son ticket de bus mérite d'écoper d'une OQTF, même s'il est français, on s'en fout. Manon, chaque après-midi, pour nous aider à aller plus loin, vous nous parlez de la personne à suivre.
Un homme qui a créé une association pour aider la réinsertion des délinquants d'une façon assez originale, vous allez voir.
Comme quoi, c'est vraiment la Marianoche qui est avec nous aujourd'hui.
Évidemment,
et pas la Buisson.
Elle est rangée.
Vers 16h30, la désistance, ça marche pour peu qu'on tombe sur un juge créatif. Dans le Zoom Zoom Test, nous partirons dans l'Ohio, où vous verrez qu'avec un peu de malice, on trouve des alternatives très très efficaces à la prison. Juste avant 17h, Rosa Burstein nous rejoindra, mais d'abord, Marwan Mohamed, quand on parle de sortir de la délinquance, on a l'impression qu'on parle de sortir d'une dépendance, presque. Est-ce que c'est de cette manière qu'il faut vraiment aborder la question?
Alors non, parce que quand on dit d'être engagé dans la délinquance, vous imaginez bien qu'il y a plusieurs formes de délinquance et que le type d'engagement dans la délinquance peut conférer dans une petite partie une forme d'aliénation, une forme d'addiction même, et on pourra rentrer dans le détail, parce qu'une partie de la délinquance tient sur les addictions, justement. Oui. Les personnes qui sont en situation d'addiction, et par exemple qui volent pour consommer, et donc leur délinquance, elle tient sur leur addiction. Là, pour le coup, l'idée tient la route, mais on a d'autres personnes pour lesquelles la délinquance peut être passagère, elle peut être ponctuelle, elle peut être circonstanciée ou liée à un contexte bien particulier. Et puis sortir de la délinquance, le problème des sorties de délinquance, c'est qu'on est parfois moins addict, entre guillemets, à sa délinquance que pris dans une situation qui confère à la délinquance. Et je pense que ce qui est plus dur, c'est de sortir de sa condition. Une condition qui amène à la délinquance, plutôt que de la délinquance en tant que telle.
Face à vous, Marwan, il est la preuve vivante qu'on peut s'extirper de la délinquance. Oui, Cyril Lacarrière, le Kaiser Sosé de Pontecombo, devrait aujourd'hui croupir en prison entre Guy Georges et Jonathan Daval. Peut-être même y prendrait-il du plaisir.
Mais non,
car en 1990, alors qu'il sautait à pieds joints dans la délinquance en volant au mammouth de Roissy-en-Brie, la cassette du nouvel album de Michael Jackson, tout ça est vrai, il s'est fait choper par la sécu et sa mère, Madame Lacarrière, lui a collé le savon de sa vie, détruisant la cassette et surtout déchirant sous ses yeux les billets du concert pour Michael Jackson qu'elle lui avait offert. À la place, tu viendras voir Franck Michael avec moi, ça te remettra d'équerre, petit con, lui avait-elle déclaré. Résultat, depuis, il n'est plus jamais sorti du droit chemin. Bonjour Cyril.
Bonjour Mathieu. Alors,
l'histoire 1, effectivement, est vraie. Ma mère est venue me chercher parce que j'avais tiré la cassette de Michael Jackson lamentablement au carrefour de Pontecombo. Et c'est une des rares fois où ma mère était très en colère contre moi. Elle a enlevé la bande de la cassette pour me dire que je l'aurais pas. Et effectivement, je ne suis pas allé voir Michael Jackson en concert cette année-là.
Cette année-là, vous y êtes allé après ?
Avant et après.
Ah, bon, ça va.
On fera une émission pour parler de tout ça, mais c'est une vraie anecdote.
Alors, Cyril, absolument.
Vous qui traversez toujours dans les clous désormais, dites-nous la désistance, d'où ça sort ?
Eh bien, avant de vous dire d'où vient la désistance, je vous dis comment la désistance est arrivée ici dans cette émission. C'est tout simplement l'idée d'une auditrice qui m'a suggéré ce terme via Instagram, Caribou, c'est son pseudo sur Insta, qu'elle soit ici remerciée. Donc, cette désistance, d'où vient-elle ? Eh bien, du travail de deux Américains, un criminologue, John Loeb, et un sociologue, Robert Sampson. L'un et l'autre étaient chercheurs à Harvard. Au début des années 90, ces deux hommes se penchent sur le travail, 50 ans plus tôt, d'un couple, Eleanor et Sheldon Gluck. Ils ont travaillé sur les facteurs qui peuvent engendrer la délinquance juvénile. Le couple Gluck, tous les deux criminologues, avaient mené des études sur le comportement de 1000 jeunes âgés entre 10 et 17 ans. Parmi eux, la moitié était déjà répertoriée comme délinquants et les autres comme non-délinquants. Leur travail va se faire sur plusieurs décennies afin de savoir pourquoi certains entrent dans la délinquance et d'autres en sortent.
Et alors, quelles seront leurs conclusions ?
Eh bien, en fait, les conclusions, ce sont Loeb et Sampson qui vont les tirer dans deux livres. Début partagé, Vie divergente, garçon délinquant jusqu'à l'âge de 70 ans, publié en 1995. Et la criminalité en devenir, cheminement et point tournant dans la vie, sorti en 2006. De ces deux ouvrages, un enseignement s'impose. Il n'existe pas de déterminisme social qui lierait un individu à la délinquance. Et oui, il est possible de ne pas récidiver, donc d'être dans la désistance. Autre enseignement important, la prison n'est pas un facteur garantissant la désistance, même lorsque les conditions d'enfermement ont été particulièrement rudes. Au contraire, si cette notion nous vient des États-Unis, comme je viens de le dire, en France, un des premiers à l'avoir utilisé s'appelle vous-même, Marwan Mohamed. Ah. Et oui, c'est vous, comme quoi les choses sont bien faites dans cette émission. En 2012, vous publiez un essai, Les sorties de la délinquance, théorie, méthode, enquête, où vous soulignez deux définitions possibles de cette désistance, la sortie de la délinquance et la non-récidive. Comme nous avons la chance et le plaisir de vous avoir de nouveau avec nous, le mieux, c'est que je vous laisse expliquer ce qui différencie les deux, et ça tombe bien, puisque nous avons une heure pour le faire.
Merci Cyril. Marwan Mohamed, entre ces deux définitions, donc sortie de la délinquance et non-récidive, alors déjà, la différence, il faut peut-être l'expliquer.
Alors, la différence, elle est simple. Quand on parle en termes de récidive, on parle en termes de radar judiciaire. Qui vient, qui est condamné, qui réapparaît. Donc on a vraiment quelque chose qui renvoie au travail des forces de police et au travail de la justice. Quand on s'intéresse aux sorties de délinquance, on s'intéresse au processus sur le long terme. Et les deux ne se croisent pas forcément. Pourquoi ? Mais parce qu'on peut sortir de la délinquance et être récidiviste. Comme la sortie de délinquance est un processus sur le long terme, et moi j'ai déjà observé des cas de jeunes qui étaient tombés pour trafic de stupéfiants et pour braquage, qui étaient très durs à l'échelle locale, ça c'est une histoire vraie, et qui finalement veulent passer à autre chose, s'inscrivent dans une formation, passent des diplômes, rentrent en formation, voire commencent à travailler, se mettent en couple, ça pèse un petit peu localement, mais croisent dans leur quartier des policiers avec lesquels ils ont eu un mail à partir à plusieurs reprises. Le ton monte, les mots fusent, les insultes aussi, front contre front, outrage, rébellion, comparution immédiate, incarcération de 4 mois. On a quelqu'un qui était dans un processus de sortie de délinquance, mais qui va récidiver pour le coup, c'est-à-dire qui va revenir dans les radars. À l'inverse, on a des personnes qui ne récidivent pas, mais qui continuent leur carrière de délinquante, ça s'appelle juste des délinquants performants.
Ils ne se font pas prendre.
Et oui, et donc, c'est pour ça qu'en tant qu'indicateur, d'observer la non-récidive, ça ne suffit pas pour travailler en profondeur les sorties de délinquance.
D'après les conclusions que nous livrait tout à l'heure Cyril, des ouvrages qu'il citait, il a dit « Un enseignement s'impose, il n'existe pas de déterminisme social qui lierait un individu à la délinquance ». Vous êtes d'accord avec ça ?
Alors, quand c'est écrit, ce qui est dit, c'est qu'il n'y a pas de déterminant qui empêcherait, moi je pense que c'est plus comme ça qu'important, empêcherait des personnes de sortir de la délinquance. Et de fait, vous avez une majeure partie des personnes qui sont dans une délinquance d'habitude, dans des carrières délinquantes. Le vol d'une cassette vidéo, c'est un bon exemple, en fait. Parce que ça relève des bêtises de jeunesse, des transgressions de jeunesse, et ça ne fait pas de vous quelqu'un qui a un parcours, une carrière délinquante. Donc généralement, la confrontation à la police, voire même la confrontation à la justice, suffit pour 80% des mineurs qui sont suivis par la justice des mineurs. Mais il va en rester 20 dans des situations beaucoup plus compliquée. Et là, pour le coup, eux, les déterminants sociaux, les déterminismes sociaux sont extrêmement puissants dans le contexte actuel. Par exemple, l'échec scolaire, de vivre dans un environnement familial un petit peu compliqué, le manque d'argent, tout ça.
Donc il y a un déterminisme social.
Bien sûr qu'il y a des déterminismes sociaux, bien sûr.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Sortir de la délinquance, c'est possible et le processus a même un nom. Zoom aujourd'hui sur la désistance, un concept qu'a étudié notre invité, le sociologue Marwan Mohamed. C'est quoi, Marwan, ce processus justement? Comment on sort de la délinquance? Il y a des étapes qui sont répertoriées?
Alors oui, il y a trois grandes étapes. Quand on analyse les parcours, il y a une première qui est une phase de prise de conscience. Il y a une deuxième phase qui est une phase d'initiative, c'est-à-dire il ne suffit pas de prendre conscience et de se dire il faut que je passe à autre chose. Il y a des initiatives qui sont repérables dans les trajectoires, alors en emploi, en formation ou autre. Et il y a une phase beaucoup plus longue qui est celle de pérennisation, c'est-à-dire qu'on observe un changement d'identité sociale, un autre rapport au monde, un autre rapport à la question de la délinquance et à la loi. Et donc, c'est vraiment trois phases qui sont plus ou moins rapprochées selon les ressources des individus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des délinquants que j'ai interrogés, même quand ils ne sont pas sortis, ils avaient conscience qu'il fallait passer à autre chose. Il y a très peu qui se projettent à long terme. Là où ça devient compliqué, c'est dans la phase d'initiative, parce que pour certains, les ressources, le niveau de diplôme, de formation, ou bien même l'entourage, les ressources relationnelles, tout ça extrêmement limité, ou bien il y a des obstacles, on en parlait tout à l'heure, comme les problèmes de santé mentale ou d'addiction, qui sont des freins bien connus aux sorties de délinquance.
Du coup, en fait, ça peut prendre des années.
Ça prend souvent des années. Ça prend souvent des années, c'est pour ça qu'on parle de processus, mais c'est pas parce que les choses sont pas repérables et visibles tout de suite qu'il n'y a pas,
pas
un chemin qui est en route, c'est ça. C'est pour ça que moi, quand il m'arrive d'être devant des magistrats dans le cadre de formation professionnelle la plupart du temps, j'insiste beaucoup pour que la question du contexte du moment et tout ce qui a été mis en œuvre entre la date du délit, alors sauf en comparution immédiate parce que c'est le jour même, et la date de jugement, tout ça doit être pris en compte avec beaucoup d'attention.
Il y a plusieurs types de délinquance. Quelqu'un qui roule trop vite, c'est aussi quelque part un délinquant. Qu'est-ce que ça signifie de sortir de la délinquance dans ce cas-là?
Alors, nous, les sociologues, les chercheurs, la plupart s'intéressent aux sorties de délinquants d'habitude, de gens qui sont inscrits dans un mode de vie délinquant. C'est plus ça qui nous intéresse, de voir comment est-ce que d'être ancré dans un mode de vie, combien de temps ça prend et dans quelles conditions il est possible de sortir de la délinquance. Vous avez des personnes qui commettent des fois des faits très très graves, mais c'est un seul fait grave dans leur vie, ça va être leur seule condamnation. Vous avez la question des délits routiers, mais les délits routiers aujourd'hui sont massifs. Qui autour de cette table n'a pas commis un délit ces derniers mois d'une manière ou d'une autre? Je veux dire, la loi régit tellement d'aspects de nos comportements. Moi, j'ai fait un peu rouge, j'ai fait à moitié exprès il y a deux jours. Bon voilà, je suis délinquant, je me suis pas fait interpeller, donc officiellement je le suis pas. Donc, ce que je veux dire par là, c'est ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment les carrières et les parcours délinquants sur le long terme.
Mais Marwan, je vous écoute, mais est-ce qu'il y a des fonctionnaires, des professionnels dédiés à la sortie de la délinquance aujourd'hui en France, à cette désistance? Est-ce qu'il y a des gens pour accompagner? Ça ne se fait pas tout seul.
Alors oui, vous avez plusieurs types d'acteurs. En tout cas, il n'y a pas de politique publique tournée autour de ça. Et c'est ce qui manque dans le contexte français. Et c'est bien dommage.
Ça existe ailleurs ?
Oui, ça existe ailleurs. Vous avez des politiques publiques. Moi, j'ai par exemple travaillé un peu avec le ministère de la Justice dans le canton de Lausanne, en Suisse.
Ah.
Et ils ont mis en place une politique expérimentale extrêmement intéressante qui s'appelle Opération Désistance. Et je les salue. Et en fait, c'est un vrai projet avec des moyens publics et l'idée d'accompagner, de parcourir et aller jusqu'à même célébrer un peu, faire une espèce de rituel de réhabilitation pour marquer le retour à la communauté sociale des personnes qui ont suivi tout ce parcours-là. Donc il y a des pays pour lesquels c'est une politique publique. Aux Pays-Bas, on a beaucoup investi sur la question de la réinsertion. C'est la priorité avec l'idée de se dire que la meilleure des sécurités, c'est quand les gens sortent de la délinquance.
Mais
sur le long terme. Pardon. Donc juste pour répondre à la question, vous avez des professionnels de l'insertion et de la probation du ministère de la Justice. On pense à eux en premier, les conseillers de probation et d'insertion. Mm-hmm. Vous avez aussi beaucoup de travailleurs sociaux sur le terrain, des éducateurs de prévention spécialisée, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse qui accompagnent les mineurs délinquants à sortir. Et puis vous avez toute une série d'acteurs qui ne sont pas professionnels reconnus comme tels pour une politique publique, mais qui font un travail, les professionnels de la réinsertion, des missions locales, et qui accompagnent les sortants de prison pour les aider à se réinsérer, oui.
Travail admirable, Marwan, on le comprend, mais la question se pose, qu'est-ce qu'ils disent à ces délinquants? Je pense par exemple à, je sais pas, des gens qui font du trafic dans les banlieues, des guetteurs qui vont gagner à 16 ans 10 000 euros par mois. Comment on leur explique qu'il faut arrêter ça, c'est pas bien, et qu'il faut aller faire un BEP où ils vont finir au SMIC? Donc c'est difficile.
C'est intéressant, c'est très intéressant. Si on prend l'exemple des guetteurs, des mineurs ou des jeunes majeurs qui sont impliqués dans le trafic de stupéfiants, qui sont guetteurs et revendeurs, d'abord il n'y en a aucun qui gagne 10 000 euros par mois, et ils sont beaucoup moins payés, ils sont généralement payés moins que le SMIC horaire.
Ah oui.
Les guetteurs, oui.
Ah ben ça, c'est donc important de le dire, parce qu'on entend souvent des chiffres un peu.
Quand on a 14 ans, même d'être payé moins que le SMIC horaire,
oui, c'est déjà.
Quand on accumule en termes d'argent, quand on vient d'une famille pauvre et qu'on est mineur, on n'a pas le droit de travailler, c'est quand même beaucoup d'argent, mais c'est juste, ils ne gagnent pas autant. Très, très, très concrètement, quand on travaille avec des jeunes qui sont impliqués dans le trafic de stupéfiants, on regarde deux choses. On regarde d'abord leur expérience. Qu'est-ce qui les a fait rentrer? Pourquoi ils sont rentrés? C'est quoi la logique économique? Payer une dette ou autre? Parce qu'ils ont tous une raison économique de s'engager dans la délinquance. Deuxièmement, qu'est-ce que ça leur apporte? Et troisièmement, qu'est-ce que ça leur coûte? Qu'est-ce que ça leur coûte? Et souvent, ce qui est le levier avec des mineurs qui sont impliqués dans le trafic de stupéfiants, c'est de dire, ok, bon, bah, tu peux plus aller t'amuser tranquillement, oui. Tu te fermes, tu consommes davantage de stupéfiants, tu te fais violenter, tu te fais maltraiter au travail, en plus, t'es exploité. Et donc, quand on prend l'expérience globale, et pas seulement l'argent, on ne regarde que l'argent, eh ben, on a des arguments pour accompagner des mômes et les convaincre de sortir. Moi, j'en ai vu plein sortir, hein. Ils ont un vrai problème, les trafiquants de turnover, un problème RH. Parce que les gens ne restent pas si longtemps que ça sur les plans stup. Ce n'est pas un boulot facile en tant que tel.
Lui, Marwan, je le revois encore, s'échappant du Carlton sans même rendre la clé de sa chambre pour fuir dans les rues de Lille, la tête planquée sous un sweat à capuche, faisant des doigts d'honneur aux caméras de sécurité. Comportement peu étonnant quand on sait le mépris qu'il a pour cette ville, dont il a déjà oublié le nom du festival qui nous avait pourtant invité là-bas. Si. On a fait Série Passion à Lille, a-t-il confié à notre invité vendredi. Vous voulez dire Série Mania? Oui, voilà, peu importe son nom. Quentin, vous vous souvenez de Série Mania?
Oui, je m'en souviens.
On avait été bien accueillis.
J'adore Lille.
Ils avaient même payé.
Oui.
Et ben alors?
Ils ont payé la fenêtre de l'hôtel aussi.
Alors
aussi,
ils ont tout payé. La délinquance, vous n'en êtes pas encore sorti, Quentin. Ce qui ne vous a pas empêché de poser la question de la désistance aux passants que vous avez croisés.
Je suis installé sur la terrasse d'un café parisien, pas très loin de la maison de la radio. Je bouquine le journal et à la table d'à côté, cette dame, tasse de thé en main, me voit sortir le micro France Inter. Elle accepte volontiers de se prêter au jeu.
Désistance. Désir, peut-être. Stance. Comprends pas,
mais je lui explique le processus de réinsertion qui est aussi un problème dans notre société et là elle est d'accord.
Alors là il y a du boulot, la réinsertion. Mais vous, pour un que vous sortez, vous en avez combien qui récidivent? Voilà, c'est ça le problème. D'abord ils sont trop nombreux dans les prisons, il n'y a pas assez de prisons. Si vous dites on va construire une prison à côté de chez vous, tout le monde dit ah non, pas près de chez moi. Il faut construire des prisons mais pas près de chez moi. Alors, ils sont trop nombreux, là aussi, on n'a pas le temps de s'occuper d'eux, donc la réinsertion, c'est... J'ai un ami qui s'en occupe beaucoup, hein, lui, il donne des cours de maths
en prison,
et il dit que pour 15 qu'il a, il y en a un qui s'en sort.
Je salue cette dame, je règle le café. Vincent sort du kiosque à journaux avec les échos dans la poche de son manteau vert. Il accepte qu'on discute, mais il est pressé, il a sa petite fille à récupérer, alors on le fait en marchant.
La désistance. Vaste sujet. Ah, c'est compliqué, cette histoire. Je crois que le sujet de fond en France, c'est qu'on a trop de dépenses. Quand vous allez, par exemple, au ministère de la Justice, vous allez avoir des endroits où vous avez des dépenses extrêmement importantes. et d'autres endroits, comme par exemple lutter contre la récidive, etc., où vous n'avez pas, assez d'argent. Donc, pareil, je vais vous prendre un exemple qui va faire hurler certaines professions. On n'utilise pas suffisamment l'intelligence artificielle qui permettrait d'avoir une meilleure productivité à la fois des magistrats et des greffes, ce qui permettrait de dégager des moyens financiers, ces moyens financiers pouvant être utilisés ailleurs.
Et quand il dit « ailleurs », est-ce qu'il pense à la réinsertion ?
Bah, c'est évident, dans la réinsertion. Parce qu'à partir du moment où vous vous réinsérez, finalement, en bout de course, vous faites une économie puisque vous évitez d'avoir des magistrats, des gardiens de prison, des prisons, j'en passe, et des moins bonnes.
Moins de gens en prison, quoi.
Moins de gens en prison, donc ça coûte moins cher, finalement. À partir du moment où il y a moins de récidives, pour la collectivité, c'est un bon schéma financier.
Je traverse le pont de Grenelle et sur un quai à droite de celui-ci se trouve le bateau Thalassa. Oui, celui où Georges Pernoud a tourné ses plateaux. Depuis l'arrêt de l'émission, le bateau est devenu un restaurant de réinsertion. L'association Wake Up Café œuvre à l'insertion d'anciens détenus. J'ai rendez-vous avec ce jeune homme.
Bonjour, je m'appelle Sidji. Je travaille dans la maintenance depuis 7 mois et j'ai 30 ans.
Je demande à Sidji de me raconter sa situation.
Moi, ça fait 8 mois que je suis sorti de détention et je suis en semi-liberté encore. Je suis en semi-liberté.
Ça implique quoi, la semi-liberté ?
La semi-liberté, de la liberté, mais pas totale. Tous les soirs, il faut que tu rentres en cellule, en prison.
Là, ce soir, tu rentres en cellule ?
Non, je suis en perme. Je suis en permanence. Vu que ça fait 8 mois que je suis là-bas, au bout de 3-4 mois, dès que tu travailles et que tu es carré sur tes obligations, tu as droit à des permissions et dormir le week-end à chez toi.
Je profite que le courant passe bien entre nous pour lui demander comment il est tombé dans la délinquance.
Moi, je pense que je suis tombé dans la délinquance par rapport à ma fréquentation. Souvent, c'est manque d'argent. Ouais. Voilà, et que tu n'as pas envie d'aller travailler, que tu choisis... C'est pas la facilité, mais en gros, tu prends des risques pour te faire de l'argent, pour rien. Jusqu'à aujourd'hui, moi, je suis fier de moi. Parce que quand j'étais en prison, déjà, j'avais des regrets par rapport à ce que j'ai fait. Et je me suis dit, à ma sortie, il faut que j'avance. Et là, depuis que je suis chez Wake Up Café, ils m'ont donné un métier. Et je sens vraiment que j'ai laissé ça derrière moi et que j'espère que ça va tenir.
Avant de le quitter, je lui demande à quoi il voit qu'il est en train de se réinsérer dans la société.
Quand j'ai commencé à m'inscrire dans une salle de sport, voilà, tout simplement, avoir des collègues et après même dans ma famille, reprendre les liens avec ceux qui ne sont pas de ce monde-là, de la délinquance, je sens qu'il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent. J'ai des amis, je vais au bowling, je vais au cinéma. bien sûr, mais c'est là que je profite, même si je suis en semi-liberté, je profite de chaque heure avant de rentrer. Ouais, je me fais plaisir, comme un jeune de 30 ans.
Cette question, elle vous interpelle. La réinsertion doit-elle commencer dès la prison ? Les dépenses sont-elles mal réparties ? La tentation de la récidive peut être forte ? Il faut aider à tenir et à résister, notamment par le biais de ces associations qui font un travail formidable. Finalement, désistance rime aussi avec résistance.
Merci Quentin. Marwan Mohamed, on entend, moi, je reviens dans ce que dit Sidi, cette expression « renouer avec ceux qui ne sont pas de ce monde-là », autrement dit ceux qui n'ont pas été en prison. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une trop grande fracture entre le monde de la prison, qui est un monde en soi, ou parfois d'ailleurs, d'après ce que j'ai pu comprendre, on peut devenir encore plus délinquant que ce qu'on était dehors, et le monde « normal » entre guillemets ?
Oui, alors il y a deux choses hyper intéressantes. D'abord, on a eu les deux phases, conscientisation et initiative. J'ai réfléchi, il faut que je passe à autre chose, et Initiative Wake Up Café qui fait un super travail. Mais parce qu'il s'est retrouvé avec cette ressource-là du travail remarquable qui est fait par Wake Up Café. Et je dirais qu'il y a très peu de détenus qui sortent de détention et qui bénéficient d'une forme d'accompagnement tel que celui-là, qui est très qualitatif. J'y suis allé sur le bateau. C'est carré, hein, c'est très professionnel. J'y suis allé pour un cocktail et une soirée, c'est très professionnel. On oublie en fait. Si on ne nous avait pas dit que c'est les personnes qui sont sortent de détention... Voilà, c'est des très pros, donc on voit très bien qu'il y a un engagement des équipes autour de ça. Donc on a eu ces deux processus. Deuxièmement, oui, quand on est dans certaines formes de délinquance, logique de bande, de stupéfiants, dans des petites équipes criminelles, dans délinquance rémunératrice, et ensuite qu'on se retrouve en détention, c'est un monde fermé, c'est un monde très homogène qui tourne autour des mêmes thématiques. Donc c'est dur de s'ouvrir à ça. Et puis, Mathieu Noël, vous avez raison, en fait, on sort toujours... plus compétent en matière de délinquance de prison qu'on en est entré. Mmh. Et donc, ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont là vont continuer et vont monter en gamme. Mais moi, j'ai interrogé beaucoup de personnes en travaillant sur la criminalité organisée qui sont rentrées pour des faits de petite et de moyenne envergure et qui, forcément, ils ressortent avec des conseils, des 06, des numéros de téléphone, des compétences, des filières de recel. C'est pas le même jeu.
Est-ce qu'elle doit commencer en prison, la désistance ?
Oui. Oui, et puis c'est une demande de beaucoup de détenus. Hein. J'étais il y a quelques mois à Toulouse et à Seyss, la maison d'arrêt de Seyss, et puis au centre de détention des Murets. C'est deux établissements quasiment collés. Maison d'arrêt de Seyss, bon, c'est que des prévenus, c'est des gens qui ne sont pas jugés définitifs. Il n'y a quasiment pas d'activité. Donc les gens se posent la question, mais qu'est-ce qu'on fait là pendant toute la journée? Ils sont en demande d'activité, ils sont en demande de formation, ils sont en demande de préparation à la sortie. Et Muret, c'est plutôt, il y a du travail, c'est porte ouverte, ça circule. Donc il y a déjà une vie sociale et professionnelle qui se construit. Et le discours des détenus et surtout leur projection dans l'avenir était pas du tout les mêmes. C'est sur ça qu'a misé le gouvernement des Pays-Bas, par exemple. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils ferment des prisons. Parce qu'ils ont tellement investi massivement sur la question de la réinsertion en détention pour tout le monde qu'ils peuvent se permettre de fermer des prisons derrière.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Plus de coke pour Gérald. C'est l'objet d'un mail interne que j'ai envoyé à tous les membres de l'équipe de Zoom Zoom Zen. Gérald étant la personne qui m'aide à préparer le quiz et qui dernièrement a tellement bousculé les codes de cette séquence qu'il a choqué nos auditeurs les plus fidèles, pour qui un Zoom Zoom test est avant tout des questions, des réponses sous forme de QCM et un juge impartial, moi. Bonne nouvelle, Gérald étant sevré, on va pouvoir jouer comme avant au Zoom Zoom test. À la découverte aujourd'hui de ces peines alternatives à la prison qui peuvent faciliter la désistance. En France, ce sera certainement proposé à Quentin quand il sera définitivement condamné dans cette sinistre affaire de fraude à l'URSSAF. On a le sursis probatoire, le bracelet électronique, le travail d'intérêt général, la sanction réparation ou encore les jours amendes. Et non, Quentin ne peut pas payer en cash les jours amendes. Pas mal de possibilités donc, mais beaucoup moins que dans l'Ohio. Cet état de l'Ohio dans lequel Cyril Lacarrière, alors stagiaire à la cantine du FBI, avait été envoyé pour se former au maniement des armes et qui s'était soldé par un homicide involontaire sur la voie publique. Je lui ai peut-être tiré dans le dos, mais je lui ai lu ses droits après, plaida-t-il en vain aux bœufs-carottes du FBI, les beef-carottes. Heureusement pour Cyril, l'Ohio possède une législation très créative en matière d'aménagement de peine, essentiellement grâce à un homme, le juge Michael Ciconetti, qui là-bas vous évitera peut-être la prison, mais pas la chouma, d'après vous. Si vous croisez un homme déguisé en poulet dans la rue, dans l'Ohio, c'est sûrement parce qu'il a braqué un KFC, donc œil pour œil, dent pour dent, traité un policier de poulet, donc œil pour œil, dent pour dent, ou qu'il a voulu coucher avec un poulet, donc œil pour œil, enfin bref.
Ah non, c'est...
Ah, vous, est-ce que vous avez le droit de faire ça, Quentin ?
Bien sûr, j'ai le droit.
Vous avez le droit, oui, c'est une bonne réponse de Quentin, lui. Cyril vous le dira, quand il laisse Madame Lacarrière à Paris pour s'offrir un week-end à la Jonquera, la ville espagnole du sexe low cost, aventure dont nous parlerons jeudi lors de notre émission sur les kinks, il fait très attention à vérifier que la prostituée est une vraie prostituée, pas une policière infiltrée dans la maison close pour démanteler un réseau de proxénétisme. En 2007, trois jeunes de l'Ohio n'ont pas eu la présence d'esprit de vérifier. La dame avec qui ils sont montés était en fait un flic. Le juge Ciconetti leur a laissé le choix, 30 jours de prison ou une heure déguisée en poulet, portant un panneau « No Chicken Ranch in Ohio », référence à une célèbre maison de tolérance du Nevada où la prostitution est légale. Plutôt que la cage, ils ont préféré le poulet et la honte. Mais restons en Ohio en compagnie de Quentin, ce passionné de belles mécaniques. Quentin a cassé son PEL écureuil à la caisse d'épargne pour s'offrir un passe de jour au célèbre Hot Wheels Monster Trucks de Springfield, d'où il enverra une carte postale à François Gémen. Hélas, le séjour tourne court puisque dès le premier soir, il est arrêté et condamné par le juge Ciconetti, toujours lui, à s'asseoir les yeux bandés devant un magasin avec un écriteau « Je suis un gros pervers ». D'après vous, qu'a fait Quentin ? Il a volé un DVD « Ma bielle dans ta culasse » au sex shop de Springfield. Il a été surpris en train d'entreprendre le pot d'échappement d'une Harley Davidson non consentante où il a commandé un burger vegan.
Mais je m'en souviens bien.
mais pourquoi c'est recyclé ?
Parce que c'est moi dans l'histoire.
Je sais pas.
Ouais, c'est dit avec si peu d'enthousiasme que je n'ai pas envie de vous donner point alors que c'est la réponse A. Et oui, Quentin, si vous voulez évacuer toute cette tension, faites comme Pierre Courade, prenez un gant et des coquillettes. Pas la peine de prendre des risques en allant voler des DVD pour adultes à Springfield. Si le juge Ciconetti vous chope, il vous condamnera, comme les 17 derniers jeunes qui ont tenté le coup dans cet état des États-Unis, à vous asseoir les yeux bandés devant le sex shop en tenant un panneau « See no evil », qui veut dire à peu près « Je ne vois pas le mal ». Une conception de la peine alternative qui peut nous faire sourire en France, mais sachez qu'avec ces méthodes créatives, le taux de désistance dans les l'État de l'Ohio est de 90% contre 25% au niveau national. Et on reste aux États-Unis pour la dernière question de ce quiz, direction le Missouri, où Cyril Lacarrière est parti le temps d'un week-end de 3 jours retrouver les copains de son boys club, les anciens du FBI. Avec ses buddies, ils ont décidé de braconner le cerf. Là, par exemple, Cyril vient d'en rater un, le 28e de la journée. « You're gonna go back home, brecouille !» le taquine ses potes. Et heureusement que Cyril vise mal, car en 2018, un braconnier du Missouri va prendre très cher. 1 an de prison ferme pour avoir, faut dire, buté plus d'une centaine de cerfs. Une vraie boucherie, justifiant donc une peine exemplaire. D'autant que le juge va aller plus loin. Il va condamner David Berry, c'est le nom du mec, à une obligation. D'après vous, quelle est cette obligation ? Obligation de regarder Bambi de Walt Disney 12 fois, à raison de 1 fois par mois pendant 1 an. Obligation de suivre des soins dans un institut psychiatrique ou obligation de parader dans la ville nu avec des bois de cerf sur la tête et un écriteau « Je suis un vilain braconnier ».
Ah !
C'est dur.
Ah !
Ben pourquoi ?
Non, c'est Bambi, je le sens.
Ah, Bambi ?
Tout est possible dans le Missouri, d'après Manon. B and C,
ouais.
C'est Manon qui a une très bonne réponse. C'était la réponse A. Les juges du Missouri ne manquent pas d'imagination. Pourquoi contraindre un braconnier fou à une obligation de soins psychiatriques quand il suffit de lui faire mater Bambi ? Vive les États-Unis et vive Manon Mariani qui remporte ce quiz.
Ah bon ?
Mais oui, ah oui. Et oui, parce qu'on est retourné en formule normale.
Ah oui, c'est pour ça qu'il n'y avait que 3 questions.
Revenez, il y a presque pas de questions.
Hier, il y en a eu 7.
Non, hier, il y a eu beaucoup trop de questions. Oui. Il y en a eu 14.
C'était trop bien, moi j'adore.
6 minutes 30. Là, c'était plus court. Revenir du bon côté quand on a trop fricoté avec le côté obscur de la force, ce n'est jamais simple. Mais comme dirait Cyril, where there is a will, there is a way. Zoom sur la notion de désistance, le processus de sortie de la délinquance avec notre invité, le sociologue Marwan Mohamed. Marwan, en préparant cette émission, je suis tombé sur une expression, le terme de carrière délinquante. Aujourd'hui, on en est là, on a des carrières délinquantes.
Bien sûr. On a des carrières délinquantes, c'est-à-dire des trajectoires sur le long cours dans lesquelles un certain nombre d'individus occupent différentes positions, évoluent dans leur expérience. Et donc, on utilise la notion de carrière parce qu'on peut faire un parallèle entre les carrières professionnelles, les formes de spécialisation, d'engagement sur le long terme et des carrières délinquantes. On a des personnes qui passent le plus clair de leur vie dans un mode de vie marqué par la délinquance. Donc, c'est une notion qui est justifiée. Oui.
Mais est-ce qu'il y a des délinquants irrécupérables où vraiment tout le monde peut s'en sortir à un moment donné ?
Non, je pense que, en tout cas, bon, c'est compliqué de dire est-ce qu'il y a des délinquants irrécupérables. Oui. Non, le point de départ de la plupart de ces politiques, de ces stratégies d'action, c'est que tout le monde peut réinsérer. C'est ça. C'est vraiment le point de départ, c'est l'espèce de croyance de départ qui permet d'avoir des effets un peu performatifs. Plus vous croyez qu'une personne peut s'en sortir, plus vous investissez, plus il a de chances de pouvoir s'en sortir. La question de fond, c'est vraiment les moyens qu'on met, mais surtout les conditions de pouvoir s'en sortir et les points d'appui. Tout à l'heure, vous avez dit, vous avez utilisé la notion de taux d'existence dans cet état. Moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant, l'idée de taux d'existence. Imaginons une politique publique dont c'est l'indicateur. C'est-à-dire que le ministère de la Justice, les collectivités locales, elles ont un objectif commun de désistance et elles doivent investir et puis on mesure la politique publique dans la capacité à faire sortir les gens de la délinquance. Ben vous verrez que les moyens seront fléchés autrement. Là, le gros de l'argent, il est mis dans la punition, sanction et dans la reconnaissance des victimes, ce qui est important.
Pardon, mais on en parlait tout à l'heure un peu en antenne et je veux revenir là-dessus parce que c'est vrai que souvent, dans l'esprit général, le bon sens dicterait qu'effectivement, il y a des délinquants, il faut les foutre en prison. Comment on fait pour déconstruire cette pensée-là ? C'est plus compliqué que ça, parce qu'on l'a vu, la prison peut entraîner toujours plus de délinquance.
Oui, et puis, vous savez, pour les sorties de délinquance, il y a toujours deux variables qui rentrent en ligne de compte. Il y a la contrainte, il y a un moment l'usure qui pèse, mais il y a l'ouverture sociale, c'est-à-dire qu'il y a une capacité à se projeter, la possibilité de se projeter sur une position sociale acceptable. L'usure, plus on pousse sur l'usure si on ne travaille pas sur la question de l'ouverture sociale, ça ne produit rien en fait. Et notre système de sanctions, il insiste sur l'usure, la sanction, l'incarcération, la prison, et beaucoup moins sur la réinsertion, c'est-à-dire la possibilité de proposer une forme d'ouverture sociale. Alors sur les courtes peines, le taux de récidive est extrêmement important. C'est-à-dire que, au contraire, il a été prouvé quand on compare le taux de récidive des personnes qui sont qui ont des peines alternatives comme le bracelet électronique, etc., et des personnes qui restent en détention, notamment pour les courtes peines, ceux qui restent en détention récidivent davantage, bien sûr.
Et juste un mot sur le Danemark avec cet exemple de la prison ouverte, les récidives pour vol qui tombent à 28% contre 43% en France. Une prison ouverte, ça paraît contre-intuitif, mais c'est peut-être une bonne idée.
En fait, toutes ces initiatives-là, que ce soit au Danemark ou aux Pays-Bas, elles investissent sur la question de l'ouverture sociale. C'est comment est-ce qu'on prépare les gens qui sont dans nos murs et qui sont sanctionnés à la sortie. Et mieux on les prépare à la sortie, mieux on prépare l'après, plus on a des chances qu'ils ne reviennent pas. C'est-à-dire qu'ils sortent de la délinquance. Et c'est comme ça qu'on produit de la sécurité. Notre problème ici en France, c'est qu'on réduit la sécurité à la question de la police, la justice et de la sanction. La sécurité, c'est aussi toutes les mesures de prévention, c'est tout le travail autour de la réinsertion. La sécurité tient aussi à ça. Donc c'est pour ça qu'il faudrait peut-être ouvrir notre conception de ce que c'est la sécurité, comment on le produit.
Vous écoutez France Inter, il est 16h45. Elle n'a jamais volé. Carole Buisson a peut-être chouré un ou deux CD de Sardou à la FNAC, je dis pas, mais Manon, jamais. Chaque jour, Manon, vous nous présentez la personne à suivre.
Je vous présente Bernard Olivier, il a 86 ans, il est français et c'est un écrivain ancien journaliste. Mais il est surtout connu pour avoir créé l'association Seuil en 2004, une association qui s'engage pour la réinsertion des jeunes délinquants avec un programme totalement innovant, les faire participer à de longues marches à pied, souvent sur des chemins de pèlerinage en France comme à l'étranger. L'idée lui est venue après sa retraite. Il est déprimé, il ne sait plus quoi faire de sa vie. Du coup, il décide de marcher sur l'un des chemins les plus célèbres de France, Saint-Jacques de Compostelle. Et sur sa route, il croise le chemin de deux délinquants belges accompagnés de leur éducateur. Ces jeunes ont eu le choix entre faire de la prison ou aller marcher. Ils ont choisi la marche. C'est grâce à cette rencontre imprévue que Bernard Olivier se retrouve un sens à sa vie et décide de monter l'association Seuil. Il dit « Je me suis dit que cette marche qui me fait redécouvrir l'envie de vivre et qui me revivifie est aussi un moyen formidable pour les jeunes de retrouver goût à la vie. » Pour lui, cette expérience de marche solitaire mais encadrée par des éducateurs vise à sortir les jeunes de leur environnement habituel, souvent, on l'a dit, marqué par la violence, et à les aider à réintégrer la société avec de nouveaux repères. L'association travaille en collaboration avec les services judiciaires, les éducateurs et les structures d'aide sociale pour identifier les jeunes susceptibles de bénéficier de ce programme. L'adhésion est volontaire, elle doit venir du jeune. Après, il va donc faire une marche de longue durée pouvant aller de plusieurs semaines à quelques mois. Elle se déroule donc, je l'ai dit, sur des chemins connus comme ceux de Saint-Jacques de Compostelle ou d'autres itinéraires en Europe. L'idée est de faire un parcours assez exigeant pour représenter un défi personnel tout en offrant un cadre de découverte et de réflexion. Les portables sont interdits et ils ne peuvent communiquer avec leurs proches qu'une fois par semaine. C'est la déconnexion totale. Et ça fonctionne. Selon les chiffres donnés par l'association, alors que 70% des mineurs récidivent dans les 2 ans de leur sortie de prison, plus de la moitié des jeunes accueillis par Seuil intègrent un parcours de réinsertion après leur marche. Marcher pour retrouver le chemin de la vie, ça paraît trop beau pour être vrai, mais j'ai lu plusieurs portraits de jeunes qui ont participé au programme et qui disent à quel point ça les a changés, ça les a aidés. C'est très touchant et c'est une initiative à suivre.
Merci Manon. Marwan Mohamed, si ça marche, comme nous dit Manon, pourquoi c'est pas l'État qui prend en charge ça? Si marcher, ça peut aider à se réinsérer.
Bah, il y a, on en parlait tout à l'heure, mais sur les questions de sécurité, il y a vraiment des postures idéologiques qui sont extrêmement marquées, fermées, et qui empêchent de penser autre chose. Mmh. Très souvent, et c'est pas un hasard, ces initiatives, ces expérimentations viennent du secteur associatif, avec des alliances au sein des services de l'État. Et il y a au sein des services de l'État des gens qui sont assez visionnaires, hein, qui trouvent le moyen d'appuyer les acteurs associatifs. Mais de manière générale, on ne capitalise pas sur ces expériences qui produisent parfois des résultats extrêmement importants. Ils ne sont pas visibles. Comme ne sont pas visibles les anciens délinquants. On est quand même dans une société, on a le sentiment qu'on est délinquants à vie. Oui. C'est-à-dire qu'on a du mal à penser le fait que la grande partie des personnes, la majeure partie des personnes qui sont délinquants, qu'on retrouve suivies par la justice à un moment donné, notamment la justice des mineurs, à un moment donné, elles passent à autre chose. Moi, c'est le cas des gens que j'ai interrogés dans le cadre de mon travail sur des bandes de jeunes. Je finissais mon terrain que j'avais à peu près 30 à 40% des jeunes que j'avais interrogés qui étaient déjà passés à autre chose. Moi, c'est comme ça que je m'y intéresse. Je me suis dit, ok, ça va vite quand même.
Zoom, zoom, zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Lui, en tout et pour tout, il aura connu 7 minutes de délinquance dans sa vie. C'était un dimanche matin après la messe à la basilique Notre-Dame du Rosaire de Lourdes. Alors, enfant de cœur chouchou de l'abbé Chibrard, il avait pris 2 euros dans la corbeille. L'abbé lui avait flanqué une sacrée rouste avant de comprendre que c'est juste pour allumer un cierge à la mémoire de Jean-Paul II. Bonjour Pierre Courade. C'est l'émotion.
C'est votre pape préféré,
en même temps.
Je me souviens du cierge. Bonjour Mathieu.
C'était votre pape préféré, Jean-Paul.
Bien sûr, je l'ai vu deux fois.
Deux fois
en vrai. Ouais.
J'imagine l'émotion. Chaque après-midi,
Pierre.
L'émotion m'habite, toujours aujourd'hui.
Oh,
merci Pierre Courat.
Pas autant que Satan. Vous nous résumez tout ce qu'on s'est dit, sauf mes conneries, en une minute chrono.
La désistance, c'est à la fois l'objectif et la manière dont on peut sortir de la délinquance. Le concept peut paraître théorique, surtout vu de France, dans un système qui privilégie la sanction à la réinsertion, mais il est très largement mis en application dans d'autres pays. C'est le cas aux Pays-Bas qui a mis les moyens dans la réinsertion, au point de fermer des prisons, et la Suisse qui va même jusqu'à instaurer une sorte de cérémonie de réhabilitation. Des exemples salués par notre invité, le sociologue Marwan Mohamed, qui fait la distinction entre sortie de la délinquance et non-récidive. La récidive, c'est très administratif, hein, on inscrit des condamnations, des arrestations dans un dossier. La sortie de la délinquance, en revanche, c'est un processus au long cours qui peut d'ailleurs parfois passer par la récidive. Mais dans la plupart des cas, la désistance se déroule en trois étapes décrites par notre invité. 1. La prise de conscience. 2. L'initiative, comme la recherche d'un emploi. Et puis 3. La pérennisation. On retrouve une identité sociale. C'est ce qui est arrivé récemment à Quentin Lui, qui, après avoir commis des actes de délinquance à répétition à l'égard du bon goût avec sa veste Valentino Rossi, a retrouvé le chemin de la vie en société. Et ceci, après le jugement cinglant mais pertinent de Loïc Prigent, qui a comparé son accoutrement à une étiquette de vieille cagette. Morale de l'histoire, en France, la police de la mode est souvent plus efficace que notre système judiciaire pour sortir de la délinquance.
Merci.
Juste cagette, pas vieille cagette.
Vieille cagette.
Juste cagette.
Je crois que le mot vieille cagette
était vous, Mathieu.
Bien, Cyril, c'est noté. Je le note dans un coin de mon cœur. Ça fait mal et ça saigne. Merci Pierre Courade. Que reste-t-il à ChatGPT ? Pas grand-chose. En tout cas, vous avez encore été très fort. Et maintenant, on accueille quelqu'un qu'on a déjà croisé dans ce studio, la réalisatrice de films d'auteur Agnès Bredouille. Agnès, vous avez, paraît-il, un nouveau projet en préparation.
Ouais, Mathieu, bah, comme je te disais l'autre fois au resto, pour ton anniv, là, t'es 50 piges. D'ailleurs, désolé, hein, j'avais pas de cadeau, mais comme tu le sais, je suis en attente du CNC. Bref, je t'ai pitché mon nouveau film, La Désistance, et tu m'as dit, bah, viens en parler mardi sur Inter, c'est dans le thème. Appelez ça du piston ou du copinage si vous voulez. Le fait est que c'est cool, quoi. Le gars fait croquer, j'apprécie, ça fait plaisir. Merci Mathieu. Donc, mon nouveau projet Désistance, c'est sur la cité, le TECAR, parce que moi, en fait, il faut savoir que je kiffe les wesh-wesh. J'ai toujours eu des petits copains banlieusards. Qu'est-ce que j'ai pris le RER pour aller à Ivry, putain. Et depuis l'avenue Montaigne, ça fait une trotte, je te le dis. Mon mec du lycée, Jordan, me prenait dans le local, salle de sport de son gardien, dont il avait les clés, je sais pas comment. Je sais plus s'il avait lâché son pitbull sur lui ou quoi. Bref, on s'éclatait. Je lui disais, vas-y, mon caïd, parle-moi en verlan. Il me traitait de tepu, je mouillais grave. J'aurais pu remplir une Volvic. Et après, dommage, avec Jordan, on s'est perdu de vue. Il a bougé à Garges-lès-Gonesse et là, c'est trop loin pour moi. Je kiffe la banlieue, mais pas les cités de campagne quand même. Hein. Faut pas abuser. Si tu troques ton pitbull contre une chèvre, là, tu me perds. Donc, moi, j'ai fait la fac de ciné à Sancier et j'ai réalisé mon premier court-métrage. Ça s'appelait 9-3. Je filmais les corps des gars du ghetto avec des gros plans sur les mains qui tiennent des ouinges et un travail sur le son assez minimaliste parce qu'en fait, bah, j'avais oublié de prendre le son. Et c'est mon cousin daltonien qui filmait tout, donc c'était en noir et blanc. Bah, résultat, le film a fait tous les festoches, j'ai raflé tous les prix à Clermont. Hein. Et dans mon discours, je me rappelle, j'avais dit les pauvres, enfin les banlieusards, en fait, ils font peur, mais ils sont gentils. Et si, comme moi, vous aviez passé genre 2-3 après-midi là-bas, bah, vous le sauriez, quoi. C'est vrai qu'ils ont la tchatche, les jeunes. Moi qui écris très peu pour ce nouveau projet Désistance, bah, je veux juste les faire improviser pendant des heures. C'est simple, tu leur payes des kebabs sauce algérienne, un oasis tropical et ils sont contents, quoi. Ils te balancent des vannes et après, je dis à la monteuse du film, tu gardes les meilleures punchlines, celles où ils insultent les mamans. Voilà. L'idée, c'est de suivre des mineurs sortis de la délinquance et moi, je les tente un peu pour voir s'ils vont replonger. Je leur dis qu'il y a du shit, là. Je les vla l'oseille, là, pour organiser une grosse soirée sur Paname, il me faut de la tease. Et s'ils résistent, j'insiste. Sérieux, frère, tu vas aller en CER ou en CEF apporter des claquettes chaussettes toutes pétées ? T'es prêt à renoncer à des putains de sneakers ? Et je filme la tentation dans leurs yeux. Tu sais, quand tout peut vriller, je leur dis, tu vas faire quoi ? Serveur, cuisinier ? Te réveiller à 6h tous les matins pour un SMIC ? On l'encule, ton éducateur, là, avec sa tête de victime gauchiasse. Et bah, je vous jure, ça marche. Après, ils ont envie de tout dévaliser. Même la banque de sperme, ils la braquent. Et trop bien, on a déjà les premières images. J'avoue que j'y vais avec des gardes du corps. Hein. Pas avec ma bagnole, je garde pas ma Mini Cooper là-bas, c'est ouf. Non, je prends un Uber, comme ça, le chauffeur, il rentre chez lui direct. Après, c'est pratique. Tu sais, moi, je suis super empathique. Hein. C'est à la fois ma force et ma fragilité. Hein. Le film, il est en deux volets. Dans le premier, échec de la réinsertion, deal, puis retour à la case prison. Et volume 2, radicalisation, je pense, avec des gros plans sur la barbe l'herbe qui pousse du jeune, il y a moyen de choper la palme d'or.
À mon avis, même le festival de Clermont, ils n'en voudront pas. Merci Rosa Burstein, on vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen et je rappelle que vous jouez les prolongations au Théâtre de l'Œuvre à Paris jusqu'en mars 2025. Les places sont en vente et vous serez également en tournée à Nice, notamment le 29 novembre au Théâtre de la Cité. Merci beaucoup Marwan Mohamed de nous avoir présenté cette notion de désistance. Je rappelle que vous êtes sociologue chargé de recherche au CNRS. Zoom Zoom Zen.